Bonsoir Thomas Pernette. Avec nous également en direct, journaliste à Point de vue, auteur du livre Altesse en détresse aux éditions Flammarion. Avec vous deux, on voulait aussi parler, et tous ensemble, de ça, de ces images. C'est sorti aujourd'hui, enfin, après des mois de suspense, les trois premiers épisodes de Harry et Meghan, le documentaire qui fait trembler toute la famille royale. Extrait.
There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories.
There was a war against Meghan to suit other people's agendas.
It's about hatred. It's about race.
It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy.
I realized they're never going to protect you.
I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth.
Thomas Pernette, question grave, vous avez vu les trois épisodes. Alors, est-ce qu'il y avait matière à trembler pour la famille royale? Trois premiers épisodes.
Écoutez, c'est un dirty game, une affaire sordide, un sale jeu. Alors, on n'a pas de frontal, en fait. On n'est pas sur le divan d'Oprah Winfrey, rappelez-vous, en mars 2021, les accusations de racisme. Là, il y a du racisme, mais il n'y a rien sur Charles, sur Camilla, sur Kate. On attendait un peu ça. Et forcément, après un tel battage médiatique pendant une semaine, parce qu'on a vu le teaser, on a vu les images, on en a parlé, il y a eu de la polémique, enfin bref, tout ça a été très très bien monté. J'avoue qu'on reste un peu sur sa fin, mais comme vous l'avez dit, ce sont les trois premiers épisodes. Oui. Deuxième salve, jeudi prochain.
Oui, il y en aura trois autres. Mais quand même, dans ces trois premiers épisodes, il y a une cible, ce sont les paparazzi. Harry désingue les paparazzi sans arrêt. Et il y a une évidence, c'est que Harry, systématiquement, compare son épouse, Meghan, à sa mère. La princesse Diana.
Alors ça, c'est pas nouveau. Hein. Depuis 2019, déjà, on avait ce petit discours, je ne veux pas que le passé se répète, je dois tout faire pour protéger ma famille. On sent que c'est très important pour lui, et on le comprend, on connaît tous l'histoire de Diana. Au-delà de l'attaque des tabloïds, il y a une attaque encore plus diffuse, et peut-être encore plus perverse. C'est de dire que ce système est entretenu par Buckingham lui-même. C'est-à-dire que finalement, il y aurait cette idée, presque cette théorie, comme quoi la famille royale, finalement, les Britanniques payent pour ça, et la contrepartie, c'est qu'ils doivent faire le show. Ils doivent performer et forcément ça emmène des excès, du harcèlement. Et qui sont les grandes victimes de ce harcèlement? C'est Harry et Meghan. Et là on pourrait se dire, et William et Kate. Et finalement Charles III et la princesse Anne. Pourquoi seulement eux? Écoutez, là c'est une façon de voir qu'on n'est pas seulement sur un documentaire sur Harry et Meghan, on est aussi sur un documentaire par Harry et Meghan, de Harry et Meghan, et ça se voit.
Oui, et payé. À Harry et Meghan.
Et grassement.
Laurence Pio, comment vous voyez ça? Vous qui avez baigné aussi là-dedans, forcément, on rappelle que vous avez dirigé la rédaction de Closer. Comment est-ce que vous voyez, quelle réponse vous apportez à la question que posait à l'instant Thomas Pernette sur précisément pourquoi eux? Pourquoi est-ce que c'est sur eux que ça tombe? Pourquoi eux sont devenus les boucs émissaires?
Je pense qu'il y a une question de tempérament, il y a une volonté de victimisation systématique de la part de la part d'Harry qui est quand même pas nouveau dans le système. Hein. Enfin, il connaît le système par cœur. On parlait de la comparaison avec Diana. C'est vrai que je me souviens que William l'a également fait avec Kate. C'est quelque chose de récurrent. Mais il y a cette volonté à la fois de s'affranchir du système et d'en profiter. Il pouvait effectivement quitter l'Angleterre, partir devenir indépendant financièrement sans faire commerce de cette charge contre les paparazzi qui est la charge un peu facile. Et c'est vrai que la charge la plus courageuse aurait été une charge contre Charles, William, Kate, enfin aller jusqu'au bout. Là, l'attaque la plus frontale, c'est l'attaque contre le Commonwealth et ces accusations de racisme. On verra si la couronne les laisse passer ou pas, mais même les accusations sur le Commonwealth sont assez irréelles puisque la reine elle-même avait chargé Meghan et Harry d'être ambassadeurs du Commonwealth. Donc c'est quelque chose qu'il pouvait changer de l'intérieur. Pourquoi critiquer quelque chose sur lequel ils ont
qu'est-ce qu'ils disent Thomas précisément sur le Commonwealth?
Alors c'est tout l'épisode 3 qui est très intéressant. Ils rappellent et ils sont pas les seuls. Ils font intervenir des experts qui sont certainement très bons. Moi je connais pas les historiens, les journalistes qui interviennent dans ce documentaire, mais ils ont l'air d'être très capés, si vous me permettez l'expression. Qu'en fait le Commonwealth c'est l'Empire 2.0, c'est-à-dire une organisation. on va dire, comment dire, qui hérite de cet empire colonial. Et finalement, la monarchie se nourrit de ce passé colonial. Et c'est dit, c'est vrai que dans les tableaux, dans les œuvres d'art, jusque dans les broches ou les bijoux, les origines des joyaux, il y a forcément ce lit de l'empire. Sauf que là où je suis d'accord avec madame, c'est que le Commonwealth, ça peut être aussi autre chose. Et la reine avait confié notamment à Meghan et Harry la jeunesse. Ça peut incarner autre chose. Et là, c'est un peu facile. Et on a du mal à comprendre quel est le rapport entre cet héritage colonial, qui est exact, qui est vrai, mais qui n'est pas seulement chez les Windsor. Hein. La famille royale des Pays-Bas a également un héritage lourd à porter. Et le fait que Meghan vienne là-dessus, bien sûr, il y a la question de la race, elle est métisse, mais on a un peu du mal à comprendre et on se dit que c'est un peu facile, malheureusement.
Je vais dire deux choses sur le Commonwealth. C'est vrai que ça pouvait être un peu surprenant de la part de Meghan, parce que les images de Meghan Markle en Afrique du Sud, notamment, ça avait été des images qui avaient marqué. Et pour une fois que ce soit une princesse métisse, ça changeait un tout petit peu la donne. Ça pourrait justement être positif et changer la donne. En revanche, sur les accusations de racisme, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif de mon point de vue. Les accusations qui ont été portées, on peut accuser Meghan et Harry de ne pas les aimer, à les accuser de vouloir gagner plein d'argent avec leur documentaire. Mais il y a quelques jours, nous avons eu la marraine du prince William qui a dû démissionner suite à des accusations de racisme. Donc, le fait qu'il y ait du racisme, évidemment, n'est pas très surprenant, comme il y en a dans la société britannique. Mais donc, le fait que deux personnes de l'intérieur, justement, on peut le voir comme, et le courage aussi de s'attaquer à cela, ça peut être vu. Chacun, personnellement, peut décider de le vivre et de le dénoncer à sa manière. Mais ça, c'est quelque chose pour la société britannique qui peut aussi être intéressant.
Pablo.
Oui, mais ce que disait Thomas, c'est qu'en fait, il y a deux types de racisme, si je puis me permettre. C'est qu'il y a le racisme dont a pu être victime à titre personnel Meghan, qui est un racisme crasse et absolument condamnable à tout point de vue. Et puis, il y a le racisme structurel, en fait, de ce que c'est qu'aujourd'hui la monarchie britannique, de ce qu'a été la monarchie britannique, de quoi elle a été, de l'héritier de quoi, en fait, elle est. Et tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, moi, j'ai juste surtout vu, parce que j'ai vu premier épisode, autant vous dire que je me suis vraiment hyper ennuyé sur ma pause déjeuner ce midi.
Vous n'avez pas de cœur, Pablo, parce que c'est leur histoire d'amour.
Oui. Non, mais c'est fleur de pleurnicherie, c'est ce qu'on écrit en titre.
Exactement, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai vu une heure de pleurnicherie et ça m'a suffi largement.
Attendez, il y a autre chose quand même, parce que on sait les rapports compliqués entre Harry et William, c'est peu de le dire. Il y a une chose, visiblement, dans ces trois épisodes, c'est que est diffusé un extrait de la fameuse interview de Diana, interview confession de Diana en 95.
Panorama, tout à fait.
Absolument. Et William ne voulait plus entendre parler de cette interview. Il ne voulait plus qu'elle soit diffusée. Que cet extrait se retrouve dans ce documentaire, c'est aussi un message aux frères.
Oui, c'est un message aux frères, mais comme il y a des images de Kate, c'est vrai que c'est assez particulier quand on sait les tensions qu'il y a entre les deux femmes et les deux couples, de dire « Ah ben aussi, cette pauvre Kate, on met deux secondes de Kate. » Sur Panorama, vous avez raison, je rappelle les faits. En 95, Diana donne une interview à Martine Bachir où elle dit notamment cette phrase « Nous étions trois dans ce mariage », elle parlait bien sûr de Charles et Camilla. Et on a appris très récemment qu'en fait, la princesse de Galles avait été manipulée par Martine Bachir, qui avait joué sur sa peur de la paranoïa. La BBC a fait des excuses, notamment au prince William, et le prince William a obtenu, en effet, qu'elle ne soit plus diffusée. Netflix l'utilise, c'est-à-dire que Meghan et Harry l'utilisent, parce que ce qui est important, c'est de savoir aussi qui est l'héritier de Diana ou pas. Parce que l'héritage de Diana, c'est quelque chose d'important. Mmh. Et on le voit dans les images. Il y a un moment, le petit Archie est dans les bras de Meghan, et elle lui dit, on voit une image, une photo de Diana, elle dit bonjour à mamie Diana. Tout le monde va être un peu dans l'héritage de Diana. Certainement, Harry est vraiment le fils de sa mère. Il a cette révolte en lui, cette révolution en lui. Mais William aussi, d'une certaine manière, est le fils de Diana. Et on sent bien que l'attention, elle est aussi sur cet héritage-là. Pas seulement l'héritage de la monarchie, mais l'héritage familial et l'héritage de la mère, l'image de cette princesse des cœurs.
On est sur des grands sujets et vous êtes des spécialistes. Donc, du coup, moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que je découvre plein de choses. Mais vu d'un profane, on a quand même le sentiment qu'on a une actrice de seconde zone qui a rêvé d'être Grace Kelly et qui est donc rêvé d'être une princesse et de se marier avec un roi, qui a eu ce destin-là formidable et qui aujourd'hui s'en plaint ou en tout cas se sert de ce statut pour l'attaquer et pour faire sa fortune dessus, parce qu'en réalité, il y a quand même aussi des intérêts qui sont quand même extrêmement mercantiles. Et je veux dire, 3 heures de pleurnicherie, c'est très bien dit. Je veux dire, pauvre petite fille riche, pauvre petite princesse riche. Je veux dire que quand on regarde ça et qu'on est profane et qu'on ne connaît pas très bien la monarchie britannique, je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu écœurant.
Indécent.
Oui. Après, je crois que concernant Meghan, on a aussi commis tous une erreur. On a pensé que Meghan, qui était une célébrité ou sous-célébrité, mais enfin, Suits était une série qui marchait quand même assez bien, saurait gérer tout ça. C'est-à-dire qu'elle passait d'une firme, la firme d'Hollywood, à la firme tout court, la firme de la couronne d'Angleterre. Et en fait, elle a la célébrité, la gestion de la célébrité et tous les codes qui sont attachés à la aux relations avec les tabloïds de la couronne anglaise n'ont rien à voir avec celles qui sont celles des stars d'Hollywood avec les tabloïds.
Alors après, moi, je voudrais quand même défendre Meghan, parce que c'est très facile de faire du Harry et du Meghan bashing. Oui, je ne doute pas que ça a été très difficile. Je ne doute pas qu'elle n'avait pas non plus les cotes, parce que même si on est une célébrité, peut-être qu'en effet, elle a un peu fantasmé son rôle, mais être une tête couronnée, c'est pas simplement mettre un diadème et en effet aller à des galas. Il y a aussi tout un travail de terrain. Et puis tout d'un coup, vous qui avez été une activiste, une voix, il faut, pardon le dire, la boucler. Le rôle d'une famille royale, c'est de ne rien dire. Et sans doute a-t-elle sous-estimé ça, et je suis d'accord avec vous, madame. Ce qu'elle a apporté, aussi bien dans les jours heureux que dans les jours malheureux, c'est d'ouvrir le débat. Et aujourd'hui, qu'on puisse avoir un débat, rien que ce soir sur ce plateau, alors qu'on est en France, sur quel est l'héritage colonial d'une monarchie, quelle est la part du racisme institutionnalisé dans ce qui est un folklore.
Thomas, vous rêvez un peu de le documentaire Netflix.
Exactement.
Elle le fait malgré tout.
Elle le fait, c'est colonial de la Grande-Bretagne.
Mais ça aurait été bien que Netflix.
Ce débat, il a été ouvert en Grande-Bretagne. Après les accusations de racisme contre
l'arrivée
fait
l'arrivée même dans le sens positif, d'une actrice.
Ils n'ont pas rendu les bijoux de la couronne parce que les joyeux avaient été volés.
On soldé. En tout cas, on parlerait peut-être de l'Empire britannique grâce à
Meghan. Mais on en parlerait peut-être pas sans elle.
Ça rappellerait la phrase d'Elisabeth II concernant les accusations de racisme. Les souvenirs peuvent varier.
Elle ne fait pas l'accusation ad nominem, elle ne fait pas d'accusation ad nominem, elle ne signe pas des noms.
Non, il n'y a rien de frontal.
Oui, c'est ça, c'est ça qui est un peu troublant.
Merci Thomas Pernette d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Altesse en détresse aux éditions Flammarion.